n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Emmanuel Rivière. Bonsoir.
Bonsoir Philippe Le Caplain.
Politologue, consultant en stratégie d'opinion et vice-président de la Maison de l'Europe de Paris. Bien évidemment, la guerre en Ukraine et les jeux de pouvoir Trump, Poutine, Zelensky dans lesquels est prise l'Europe provoquent des commentaires et des prises de position de la classe politique. Le président français s'est exprimé solennellement l'autre soir à la radio et à la télévision. Rester spectateur serait une folie, a dit Emmanuel Macron, qui évoquait un contexte de grande incertitude alors que le monde est confronté à ses plus grands défis, pour le citer. Commentaire aujourd'hui de l'ancien ministre de la Défense du gouvernement Fillon, Hervé Morin, sur Europe 1 ce matin.
Est-ce qu'on a besoin d'être dans une provocation, d'être facteur d'escalade ? Quelle doit être notre mission et notre rôle, nous les Occidentaux, nous les Européens ? Notre rôle, c'est d'essayer de trouver les voies et moyens pour qu'on obtienne le plus rapidement possible un cessez-le-feu et un processus de paix. Est-ce qu'on obtient un processus de paix et un cessez-le-feu en provoquant Poutine par les médias un jeudi soir ? Certainement pas.
Sur RTL, François Hollande a dit ce qu'il pensait de ce qu'a déclaré son successeur.
Il faut être lucide, il l'a été, sur la menace russe. Oui, il a été discret, trop discret. C'est sûr... Le lâchage de l'Ukraine par Donald Trump. Je ne dis pas qu'il est faible, je pense qu'il est trop discret. Il ne dit pas ce que nous devons quand même penser à partir de ce qui s'est passé. Pas simplement dans le bureau ovale, on pourrait croire que c'est une mise en scène, mais par les décisions de Donald Trump qui viennent d'arriver.
Autre forme de commentaire avec la première déclaration de Nicolas Dupont-Aignan, qui a perdu son mandat de député l'an dernier après les dissolutions d'Assemblée, et qui vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle.
Je serai le candidat de l'indépendance de la France et de la paix en Europe. Je suis consterné de voir que la plupart des forces politiques se taisent sur la folie guerrière de M. Macron. Et je suis absolument consterné que tout le monde veuille garder l'Union européenne telle qu'elle est, alors qu'elle nous précipite dans la ruine.
Emmanuel Rivière, vous avez regardé le chef de l'État l'autre soir. Est-ce qu'il s'est comporté en chef de guerre ?
En tout cas, il s'est comporté en chef des armées, en chef de la défense, puis s'est comporté aussi en européen. C'est d'ailleurs un des rôles qui lui sied le mieux, en invoquant sa nécessité à l'échelle de l'Europe, hein, et en pensant en européen, comme il aime bien le dire, d'acter la nouvelle donne. Alors effectivement, en insistant plus sur le danger que représente la Russie qu'en soulignant le lâchage que représente le changement d'alliance et le revirement des États-Unis sous Donald Trump, enfin, il y avait quand même bien les deux ingrédients.
Est-ce qu'il a dramatisé la situation, comme l'évoquait Hervé Morin il y a de cela quelques instants, pour fédérer autour de lui ?
Est-ce qu'il a dramatisé la situation ? Enfin, pour le coup, je sors un tout petit peu de mon rôle d'analyse de l'opinion, mais ça fait quand même quelques années que la Russie nous agresse de tout un tas de manières. Par des cyberattaques, par des attaques réputationnelles, par des tentatives de déstabilisation qu'on identifie. C'est-à-dire, c'est pas des mauvais procès qu'on leur fait. On monte à la source d'un certain nombre d'initiatives qui visent à mettre du sel sur nos plaies. Est-ce qu'il a cherché à attiser quelque chose pour son propre bénéfice ? Je ne sais pas. C'est sûr que la posture internationale aujourd'hui s'y est mieux à Emmanuel Macron, lui convient mieux que l'échelon national où on lui impute quand même toujours la situation catastrophique de l'absence de majorité de ses suites. Si on regarde ce que pensent les Français, il y a à moitié des Français, vous évoquiez tout à l'heure dans le journal l'enquête du think tank Destin commun, la moitié des Français considèrent Vladimir Poutine comme un ennemi de la France. Plus de la moitié, 56% exactement, ils pensent pas ça de la Chine, ils pensent même pas ça de l'Iran au même titre. C'est là où c'est curieux parce que après il y a distribution, donc tout le monde ne pense pas ça au même titre. Nicolas Dupont-Aignan est en phase avec son socle en disant que Emmanuel Macron serait un va-t-en-guerre. François Hollande, lui, également en phase avec ce qu'est l'électorat du Parti Socialiste, qui a tendance à considérer, notamment derrière Glucksmann, que la Russie est dangereuse. Mais c'est également le cas des électeurs de centre-droit dont M. Morin pourrait se sentir le porte-parole, est un peu en porte-à-faux avec son électorat en disant cela.
La place d'Emmanuel Macron dans cette crise internationale, Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, longtemps exclu du jeu politique national par cette dissolution ratée, le chef de l'État revient omniprésent avec cette crise.
En tout cas, c'en est fini de la période d'effacement pour Emmanuel Macron. Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses revirements sur l'aide à l'Ukraine, Emmanuel Macron est remonté au créneau sur la scène diplomatique. On l'a vu partout, de Washington à Bruxelles, en passant par Lisbonne, essayant de jouer les intermédiaires avec un président américain imprévisible, de se concerter avec les Européens et Volodymyr Zelensky pour engager le réarmement de l'Europe avec un message. L'heure est grave, la Russie représente une menace existentielle. Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste et des interventions médiatiques à destination des Français, surtout les supports, presse écrite, réseaux sociaux et finalement allocution solennelle. La crise géopolitique a permis à Emmanuel Macron de faire de la diplomatie son domaine réservé, une priorité nationale.
Autre question, Emmanuel Macron peut-il marquer des points dans l'opinion ?
Le chef de l'État l'espère certainement. Dans son allocution mercredi dernier, il a en quelque sorte appelé à la mobilisation nationale en expliquant à ses concitoyens « la patrie a besoin de vous ». Une enquête a indiqué que plus de la moitié des Français l'avaient trouvé convaincant. Emmanuel Macron réussit à être crédible sur le registre « chef de guerre, père de la nation ». Une ancienne ministre explique aussi qu'il a cette force d'avoir une lecture des défis de demain. Mais la question est de savoir si ce retour sur le devant de la scène en raison de la crise ukrainienne peut suffire à effacer durablement son image de président à bout de souffle.
Vous êtes un spécialiste de l'opinion française, Emmanuel Rivière. Vous en pensez quoi ? Quelle est aujourd'hui l'image que le président a dans l'opinion publique ? Est-ce qu'on le voit un peu plus impliqué maintenant que les affaires courantes, on va dire, franco-françaises, lui échappent avec la nomination de Bayrou ?
C'est plus que ça. C'est dans ce moment qui est extrêmement international. Hein, il y a quelque chose auquel les Français sont très sensibles. C'est le fait que leur pays compte et pèse et que du coup la voix de leur pays qui est incarné par le chef de l'État, pèse. Et c'est le cas, de fait, voilà, par le rôle qu'Emmanuel Macron a tenu. Parmi d'autres, hein, il y a Keir Starmer aussi, le Premier ministre britannique, qui s'est rendu à la Maison-Blanche. En tout cas, la voix de la France fait partie des voix qu'on entend. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, c'est vrai, il y a ce sondage-là qui a été réalisé après, qui est une enquête d'Harris Interactive. Et c'est habituel qu'Harris Interactive mesure, avec d'autres, le caractère ou non convaincant d'une intervention. C'est très très longtemps qu'on n'avait pas eu la moitié des gens qui ont regardé, entendu parler d'une intervention, qui se trouvaient convaincant. La dernière fois qu'une telle question a été posée, c'était quand lorsqu'il était intervenu après la censure qui avait renversé le gouvernement Barnier, c'était à peine 30% qu'il trouvait convaincant. Donc là, il est dans un rôle effectivement qui lui permet de retrouver un tout petit peu de place. Maintenant, les Français sont aussi capables de faire la part des choses. Ils distinguent ce qui se passe à l'international et ce qui se passe en France.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Lors de son allocution solennelle l'autre soir, le président a annoncé que la France devrait faire beaucoup plus pour sa défense. Et aujourd'hui, dans le journal La Tribune, son ministre de l'Intérieur, Sébastien Lecornu, déclare, je le cite, « Il est clair qu'un horizon autour de 100 milliards d'euros par an constituerait le poids de forme idéal pour les armées françaises. » Ok, mais il faut trouver de l'argent. Pour ce qui est du gouvernement, la dernière annonce en date, elle est faite par la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchelin. Elle était sur LCI ce midi.
Le 20 mars prochain, il y aura d'un côté les industriels de la défense, de l'autre côté vous aurez les professionnels de la finance, et on regardera ce dont ont besoin les industriels de la défense et comment la finance peut les y aider. On verra si entre l'assurance vie, les prêts bancaires, ce que font les gestionnaires d'actifs, y a-t-il sur la table assez de solutions pour financer les besoins exprimés par les industriels de la défense au-delà de la commande publique ? Ou faut-il chercher de nouvelles solutions ? Ça sera tranché le 20 mars.
Manon Aubry, députée européenne de LFI, veut trouver l'argent, elle, dans les poches des riches.
Il a été annoncé cette semaine un nouveau record de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40. C'est 98 milliards d'euros qui sont versés. Je vous propose une taxe de 10% sur ces dividendes. Ça rapporte 10 milliards d'euros. Voilà 10 milliards d'euros qui pourraient servir à financer les besoins de la nation. De la même manière, en première lecture a été adoptée à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle la taxe Zucman. Une taxe qui a été proposée par nos collègues écologistes et votée par l'ensemble du Nouveau Front Populaire, qui consiste à taxer l'ensemble des millionnaires de notre pays qui possèdent plusieurs dizaines de millions d'euros et qui pourraient rapporter jusqu'à 25 milliards d'euros. Voilà des exemples très concrets, sans dépouiller nos services publics, sans mettre à contribution ceux qui nous écoutent.
Le budget de la défense pourrait donc doubler quasiment pour passer à 100 milliards d'euros. Emmanuel Rivière, les Français sont-ils prêts à financer cet effort de guerre nationale ?
En fait, plutôt oui. Enfin, je vais m'expliquer. Les Français sont très attentifs à leur pouvoir d'achat et en général assez peu enclins à ce qu'on leur demande de payer plus ou à fortiori à payer plus d'impôts. Mais les différentes questions qui ont été posées sur ce point montrent que l'effort de réarmement, d'ailleurs c'est plutôt un effort de renforcer notre défense, est plutôt parmi ceux qui sont le plus prêts à consentir. D'abord, c'est pas nouveau que la défense fasse partie des secteurs de dépenses identifiées comme devant être privilégiées, maintenues ou augmentées.
Quelle que soit la coloration politique des électeurs.
Alors, plus ou moins, non, c'est beaucoup moins vrai à gauche et c'est de plus en plus vrai qu'on se situe parmi les sympathisants de droite. Mais cela étant, ça fait partie des thèmes dont on se dit, là, ça mérite un effort supplémentaire. Et là, il y a un contexte, effectivement, et on a vu différentes enquêtes où on pouvait suggérer qu'il y ait un effort supplémentaire fiscal et on a jusqu'à 30% des gens qui disent « Ah oui, moi je serais prêt à payer plus d'impôts pour cela », ce qui est assez conséquent dans un pays qui a une aversion à l'impôt qui est maximale. Et puis, il y a l'idée aussi d'avoir une espèce de grand emprunt. Et là aussi, on a quasiment la moitié des gens qui pourraient consentir à financer, comme par leur épargne, un effort de défense plus important de leur pays.
Autre annonce de Sébastien Lecornu dans la Tribune dimanche. La France va mobiliser, grâce aux intérêts des avoirs russes gelés, une nouvelle enveloppe de 195 millions d'euros pour aider l'Ukraine sur le plan militaire. Récoutons ce que disait Raphaël Glucksmann, proche du Parti Socialiste, à ce sujet.
Il y a 209 milliards d'avoirs publics russes actuellement gelés en Europe et que nous pouvons les saisir et les affecter à l'aide à l'Ukraine pour remplacer le vide américain de manière extrêmement rapide sans que cela coûte un euro.
Maintenant, la position de la France insoumise par la voix de Manon Aubry qui distingue les avoirs russes et les intérêts qu'ils génèrent.
La question du gel des avoirs, nous y sommes favorables. Et d'ailleurs, pour exposer la question d'étendre le périmètre de ce gel des avoirs pour aller jusqu'aux oligarques qui possèdent 10 millions d'euros d'avoirs, ça, on passerait de 2400 oligarques concernés à plus de 20 000. Donc ce serait une des manières d'étendre le périmètre et le volume des intérêts, donc l'aide qu'on peut donner à l'Ukraine. Après, s'agissant de la saisie, donc la confiscation, mais je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est considéré comme une étape dans la guerre, un acte de guerre, ce qui voudrait dire que concrètement, nous entrerions en guerre avec la Russie.
Quant à Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, elle se veut prudente.
Ces avoirs russes, ils ne sont pas en train de dormir. Mmh. Ils génèrent de l'argent que nous renvoyons directement en Ukraine. L'année dernière, c'est 45 milliards qui ont été générés par ces avoirs comme des intérêts et qui ont été utilisés en soutien direct à l'Ukraine. Donc la première chose, c'est qu'on n'a pas de pudeur, de gazelle à regarder cet argent et à ne rien en faire. Il serait dommage, au nom d'une cause qui est juste, si vous saisissez ces avoirs, la question peut se poser pour d'autres investisseurs, de dire mais comment donc les Européens gèrent l'argent qui est chez eux ? Et si ça provoque un retrait massif de capitaux étrangers qui seraient en Europe, à la fin, c'est nous, Européens, qui allons être affaiblis. Et le but, c'est pas de nous affaiblir, le but, c'est de renforcer
l'Ukraine. Mais vous nous dites ce matin que ça...
Donc, financer l'aide à l'Ukraine, financer l'effort militaire français. Écoutez cette piste avancée par Olivier Faure, le chef du Parti Socialiste sur BFM TV.
Si on doit lancer un emprunt, on pourrait très bien lancer un emprunt au niveau européen. L'Europe n'est pas endettée. Et donc, elle peut le faire. La France est très endettée. C'est plus compliqué pour elle. Il faudrait quand même qu'on se représente un peu les choses. L'Europe n'est pas un continent de petits chats faibles qui devraient être protégés en permanence. Je reprends les mots du président polonais. En fait, on est à une union de 450 millions d'habitants qui demande à être protégée par un pays, les États-Unis, de 350, pour se défendre contre un pays qui en compte 150. On est aussi un continent qui est un continent riche, mais qui aujourd'hui souffre de sa division, avec des forces qui sont pas interopérables. En français, dans le texte, ça veut dire que nos armées, eh bien, ne savent pas forcément travailler ensemble parce que le matériel est différent. Bref, il y a beaucoup de choses qui supposent d'avancer.
Emmanuel Rivière, politologue donc, consultant en stratégie d'opinion. Combattre la Russie, on peut le faire de plusieurs moyens, avec des moyens financiers et avec des soldats et de l'armement militaire. Commençons par les moyens financiers. Cette idée de sanction, comment est-ce qu'elle résonne dans l'opinion publique française ?
Elle résonne mieux que l'envoi d'armes depuis le début. Hein. Les enquêtes pan-européennes, les enquêtes Eurobaromètre qui hiérarchisaient les différentes réponses l'agression russe de l'Ukraine, privilégiaient en général, on était au-delà de 65%, les sanctions économiques devant l'envoi direct d'armement, où en France on dépassait difficilement 55% de soutien autour de cela. Après, il y a un regain depuis quelques temps là, de l'idée d'aider l'Ukraine et d'aider l'Ukraine en punissant la Russie. Et moi, ce que je note dans cette... Il y a un peu des pudeurs de gazelle, pour reprendre l'expression d'Amélie de Montchalin, dans la manière dont on tourne autour de tout ça. On a du mal quand même à rentrer dans une logique qui serait une logique d'économie de guerre et même une logique d'affrontement assumé, au sens où on a besoin de dire aux Français, bon, on soutient l'Ukraine, mais on fait en sorte que ça ne vous coûte pas trop, on dit ça aux Européens, comme si on cherchait à minimiser l'impact d'un engagement, pour éviter quoi ? Pour éviter qu'il y ait un retournement de l'opinion publique, selon le mécanisme qui a été tenté, y compris par la Russie d'ailleurs, en 2022, de dire, regardez, avec l'inflation, vous payez les choix de vos dirigeants d'aider l'Ukraine.
Il est rare que le Sénat fasse le buzz, en tout cas à ce point-là. Pourtant, le discours du sénateur Claude Malhuret, indépendant, a traversé l'Atlantique pour y trouver une certaine popularité. Au cours d'un débat sur la guerre en Ukraine, c'était le 5 mars, le sénateur déclarait ceci.
Washington est devenue la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Jamais dans l'histoire un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l'en empêcher, limogé d'un coup l'état-major militaire, affaibli tous les contre-pouvoirs et pris le contrôle des réseaux sociaux. Ce n'est pas une dérive illibérale, c'est un début de confiscation de la démocratie. Et le pays proteste déjà. Mais en un mois, Trump a fait plus de mal à l'Amérique qu'en 4 ans de sa dernière présidence. Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître.
Et ce n'est qu'un extrait de ce discours de 5 minutes. Ces saillies du sénateur de l'Allier ont été vues des dizaines de millions de fois aux États-Unis. Il a même été traduit par The Atlantic, un magazine influent de la côte Est, alors que peu de médias osent s'en prendre directement à Donald Trump, J.D. Vance ou encore Elon Musk depuis leur entrée en fonction. Emmanuel Rivière, est-ce que le coq gaulois redresse la tête ?
En tout cas, c'est très intéressant que ce soit repris comme ça, que le Huffington Post écrit, vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire et écouter ce sénateur français, parce que visiblement, c'est pour un certain nombre d'acteurs et même de citoyens, une espèce de ressource. Et ça doit vouloir dire qu'en fait, le débat est complètement figé et fossilisé aux États-Unis. On a beaucoup reproché aux démocrates de ne pas s'exprimer, mais le problème, c'est que je crois qu'ils ont le sentiment d'avoir déjà tout dit sur Donald Trump pendant son mandat, après le 6 janvier 2021 et pendant la campagne. Et donc le fait que ça vienne de l'extérieur, il faut reconnaître que c'est très bien ciselé, hein, chapeau à Claude Malhuret, mais peut-être que ça donne quelque chose de supplémentaire. Alors, je ne suis pas sûr que ça marche, parce que pour les Républicains, les Français, c'est certainement pas la référence en termes d'alignement avec leurs valeurs. Mais voilà, ça permet de dire, il n'y a pas que nous qui pensons ça, dans le monde aussi on le pense.
Un mot sur ce que pensent les Français de Donald Trump. Il y a des études d'opinion là-dessus. Hein.
Bah, notamment, on faisait référence à l'excellente enquête que j'invite à consulter, de parue aujourd'hui dans Ouest France par Destin Commun. Et 6 Français et 6 Allemands sur 10 qualifieraient Donald Trump de dictateur. Et voilà, c'est l'autre effarement, c'est-à-dire qu'on voit ce que fait Trump dans l'équilibre et au niveau de l'OTAN. Ce qui se passe aux États-Unis mérite aussi qu'on s'interroge sur la dérive illibérale de ce grand pays démocrate.
Merci pour vos analyses et commentaires. Emmanuel Rivière, consultant en stratégie d'opinion, vice-président de la Maison de l'Europe de Paris. C'était Dimanche politique sur RFI, réalisé par Olivier Roux.